Ladies and gentlemen.
C'est Jacques Chirac qui vous parle.
Je dis quand même, qu'est-ce qui vous tend la main là? Qu'est-ce qui vient là?
C'est Monsieur Sarkozy.
Bah Manu, tu descends?
La France n'est pas un pays réformable. C'est un peuple qui déteste cela.
Moi, président de la République.
Voilà donc, encore une fois, ensemble.
Bonjour à tous, nous voilà une nouvelle fois réunis. Je suis Quentin Warlop, je vous accompagne sur la route de l'élection présidentielle française et après, depuis maintenant près de 4 mois, ça y est, on connaît depuis quelques semaines maintenant l'identité du prochain président. Emmanuel Macron, acte 2 pour 5 ans de plus et deux invités avec nous aujourd'hui, deux femmes, Astrid de Villene, chef du service politique du Think Tank Post. Bonjour Astrid.
Bonjour Quentin.
Et puis Johanna Bouquet. Salut Johanna.
Bonjour Quentin, bonjour Astrid.
Johanna, tu es journaliste pour Tarmac et tu suis la campagne et désormais les législatives pour les éditions digitales de la RTBF. Emmanuel Macron, réélu, réinvesti le week-end dernier. Les tractations d'ailleurs vont bon train en vue des législatives. Alors avant de commencer, je vous propose tout de suite de revenir, d'écouter d'ailleurs un morceau du discours d'Emmanuel Macron. On l'écoute.
Le temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour la France et pour l'Europe. Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine. Aider la démocratie et le courage à l'emporter. Agir pour faire de notre pays une puissance agricole, industrielle, scientifique et créative plus forte. Agir pour bâtir une société du plein emploi et d'un juste partage de la valeur ajoutée. Agir pour faire de notre pays la grande puissance écologique qu'il a à être par une transformation radicale de nos moyens de produire, de nous déplacer, de vivre en métropole, comme dans nos outre-mer.
Le président qui a fait, je cite, le serment de léguer une planète plus vivable, une France plus forte, Astrid de Villene. Emmanuel Macron peut-il garder cette fameuse majorité absolue obtenue en 2017?
En tout cas, c'est son souhait. Je sais que La République En Marche, maintenant, qui s'est appelée Renaissance, espère au moins 340 députés. La majorité absolue, elle est à 288. C'est un bel objectif. Ça va peut-être être difficile. Souvent, c'est plus dur pour un deuxième mandat d'avoir la majorité. On est dans une situation un peu inédite parce qu'on n'a jamais vu, en fait, dans la période récente, avec le quinquennat, un président sortant réélu. Donc, normalement, les élections législatives, elles donnent la majorité au président, puisqu'elles arrivent dans la foulée. Mais est-ce que cette fois-ci, ça va marcher? On le saura que le 19 juin.
Et parce que la majorité présidentielle vient d'ailleurs de dévoiler une deuxième liste de candidats investis. Ils sont 450 pour l'instant. D'ailleurs, il y a une belle prise qui vient d'être annoncée. Hein, Robin Reda, un proche de Valérie Pécresse, qu'on avait d'ailleurs rencontré pour la RTBF. Il quitte les LR pour défendre les couleurs de la majorité dans la 7e circonscription de l'Essonne. Johanna, des prises comme ça, à gauche, en tout cas ici à droite, avec Robin Reda, le président Macron va encore en annoncer? C'est important pour lui de le faire?
Je ne sais pas s'il va encore en annoncer. En tout cas, c'est déjà ce qu'il avait fait en 2017. Et puis, il a le soutien aussi, par exemple, de Nicolas Sarkozy. Donc, d'une certaine façon, je ne sais pas s'il en aura d'autres. En tout cas, dans ce qui est présenté aujourd'hui dans les listes présentées parmi cette nouvelle confédération de partis ensemble, il y a une forme de continuité dans les candidats proposés. Là où en 2017, par exemple, il n'y avait pas cette majorité vu qu'il était avec son nouveau mouvement. Et donc, il avait été chercher énormément de personnes recrutées sur CV issues de la société civile. Ici, il y en a encore, mais c'est quand même nettement moins. On sent effectivement donc cette continuité d'un gouvernement, de membres plus issus du milieu et du sérail politique.
Astrid de Villene, il y a 10 ministres qui ont été annoncés, plus les 10 déjà annoncés la semaine passée. C'est comme Johanna le dit, c'est la continuité, c'est plus l'effet nouveauté comme en 2017.
Oui, c'est la prime au sortant. Beaucoup de députés En Marche ont été reconduits, en tout cas à l'investiture. En effet, vous venez de le dire, beaucoup de ministres. Beaucoup de conseillers aussi de l'ombre. On peut penser à Paul Midi en Essonne, qui est un conseiller du parti Renaissance et qui est passé par McKinsey, le cabinet de conseil qui a
été
beaucoup critiqué pendant la campagne, parce qu'Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup recours, en tout cas son gouvernement. En effet, il y a peu de nouveautés, à part quelques prises. Donc, chez les Républicains, pour l'instant, moi, j'en ai compté trois. Robin Reda, vous l'avez dit, Marine Brenier, qui est ouais. très proche de Christian Estrosi, du côté de Nice. Et hier, on a su aussi pour Constance Le Grip, qui est une ancienne LR. Elle a été longtemps députée européenne LR. Donc, c'est pas non plus une énorme, il y a beaucoup de députés LR sortants, c'est pas non plus une d'énormes prises. Ils sont pas très nombreux, mais c'est quand même des symboles.
Dans la société civile, effectivement, moins de nouveaux visages qu'en 2017. Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales du côté de Washington, fort présent sur les médias depuis ces derniers mois, consultant pour BFM TV, il sera candidat à Paris. C'est important aussi d'en avoir des visages de la société civile.
Je me demande si Emmanuel Macron n'a pas été un peu échaudé par cette fameuse société civile qui ne lui a pas beaucoup rapporté politiquement en termes de gains. En 2017, c'était un vrai symbole et c'était assez important, je pense, ces nouveautés, ces nouveaux visages, ces gens qui venaient un peu de partout. Mais en fait, on s'est très vite aperçu, et il y a eu aussi une féminisation du Parlement qui est importante et qui est à noter du côté de la majorité. Mais je pense qu'il s'est aussi confronté à des personnalités qui étaient justement très peu politiques et du coup qui étaient parfois un peu annihilées au Parlement, pas assez présentes, pas assez politiques pour mener le combat face à Jean-Luc Mélenchon ou Christian Jacob, qui sont les deux poids lourds de l'Assemblée nationale sortante à droite et à gauche. Donc peut-être qu'il en est un petit peu revenu et qu'il s'est dit que finalement il fallait mieux compter sur des gens qui savent faire. Et d'ailleurs, on le voit bien dans son entourage ou dans les ministres qui comptent, ce sont des vrais politiques, entre guillemets. J'ajoute en plus que dans la société civile, on s'est aperçu que c'était surtout des personnes de catégorie socio-professionnelle plutôt élevées, qui avaient des gros postes dans des entreprises importantes et pas du tout ce qu'essaye par exemple de faire la France insoumise, c'est-à-dire d'investir un boulanger ou des aides-soignantes ou des gens de catégorie peut-être plus inférieure entre guillemets sur l'échelle sociale.
Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensées tristes. Je nommerai bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président?
Allez, pas encore de nouveau gouvernement pour Emmanuel Macron. A priori, le gouvernement restera en place. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, jusqu'au 13, c'est-à-dire vendredi. Johanna, le président, quoi, il va attendre le dernier moment, comme pour partir en campagne.
Mais écoute, c'est un petit peu la question qui anime ces derniers jours chez les journalistes, chez les commentateurs et chez les observateurs de la vie politique. C'est vrai que on se pose la question, est-ce qu'il va rentrer dans la mêlée ou est-ce qu'il prend vraiment son temps dans cette campagne pour les législatives, ou bien est-ce que simplement il manque de candidats parce que sa liste de critères pour choisir un premier ministre qui remplacera un ou une première ministre qui remplacera Jean Castex, elle est longue et on sait qu'il a essuyé certains refus. On a mis en lumière cette idée que le poste de premier ministre était un poste ingrat. Et dans cette configuration politique complètement remaniée depuis l'élection présidentielle, avec trois pôles très distincts entre ce centre-droit présenté par Emmanuel Macron, cette gauche refondée sous cette bannière, cette nouvelle bannière NUP ou NUPES.
Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, on en parlera tout après. Ouais.
Exactement, sous le leadership de Jean-Luc Mélenchon et cette extrême droite qui est arrivée au deuxième tour. Voilà, le paysage est avec Marine Le Pen. Et donc, le paysage politique est complètement refondé aussi. Et donc, le choix de comment sera remanié le gouvernement est très important. Mais donc, voilà, est-ce qu'il n'a pas envie de rentrer dans cette mêlée? Est-ce que, en tout cas, dans cette campagne, là, il prend son temps. Mais ce qui est paradoxal, c'est que il y a une espèce d'urgence de la situation. Par exemple, on en parlait tout à l'heure en off, mais voilà, le prix de l'essence en Belgique va encore atteindre des records. Il y a cette question du pouvoir d'achat qui était brûlante pendant toute la campagne présidentielle. Et donc, cette espèce d'attentisme pose beaucoup de questions. Ouais.
Astrid de Villene, on sait qu'il cherche a priori une femme pour le poste de Premier ministre. Il faut, on dit à Paris, caser toutes les cases. Emmanuel Macron, il prend son temps ou il a vraiment du mal à trouver ?
Moi, je crois qu'il a du mal, puisque vous avez vu que sont sortis dans la presse deux noms de femmes, plutôt de gauche, qui auraient refusé le poste. Évidemment, il y a des démentis de la part de l'entourage du président, parce que c'est jamais très agréable de se prendre des vents, hein, comme on dit de manière familière. Moi, je crois qu'il a du mal et qu'en effet, il a voulu... ça, c'est très classique chez Emmanuel Macron. Il a voulu aller très, très à gauche d'un coup pendant l'entre-deux-tours. Je pense que vous vous souvenez de son meeting de Marseille, qui a été un meeting digne d'un candidat écologiste, où il n'a parlé que de ça. Il a fait de grandes promesses.
Notamment et sur puis, le rôle qu'aurait à jouer le futur, en tout cas la future première ministre sur le thème de l'écologie. Oui.
Voilà, parce qu'il a à ce moment-là déclaré, annoncé qu'il voulait que sa première ou son premier ministre soit entièrement dédié à l'écologie avec deux autres pôles juste en dessous de lui pour l'énergie et les territoires. Donc c'est quasiment en fait une refondation aussi du gouvernement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est très ambitieux. Mais du coup, il faut trouver les bonnes personnes à la bonne place. Et on sait que depuis 5 ans, Emmanuel Macron a des problèmes de ressources humaines en fait. Il a du mal à recruter, à trouver des personnes... à la bonne place, et aussi parce qu'il prend beaucoup de place lui-même, en fait. Il a du mal à déléguer.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Il est effectivement omniprésent. C'était Pierre Mathiot, hein, directeur de Sciences Po Lille, qui nous disait que les contacts qu'il pouvait avoir, lui, avec plusieurs ministres, faisaient état d'un président effectivement très présent et qui n'avait pas beaucoup de contacts avec ses autres ministres. On devait parfois, vous avez entendu ça aussi, Astrid de Villene, passer par d'autres ministres, notamment Jean-Yves Le Drian en déplacement dans les avions pour passer les messages au président.
Oui, et certains passent même par Brigitte Macron. Donc non, clairement, il est et même on a vu pendant toute la crise du Covid, il a gouverné avec un tout petit cercle dans des conseils de défense restreints et très serrés. Et en fait, les informations ne fuitaient pas. Donc nous, parfois, journalistes, on apprend des informations à des conseillers de ministres qui n'ont pas accès au président. Et donc, comme il n'arrête pas de répéter là depuis qu'il a été réélu qu'il le voulait instaurer une nouvelle méthode collective, eh bien ça passe aussi par là. Mais là, je crois qu'il se heurte en fait à lui-même. Et puis, je crois aussi que c'est difficile pour lui de trouver un Premier ministre ou une Première ministre écologiste parce que son bilan ne plaide pas pour lui. Les 5 dernières années n'ont pas été assez ambitieuses sur ce plan-là. Et donc, il y a beaucoup... Moi, j'ai eu par exemple des climatologues ou des personnes qui pourraient faire le job au téléphone qui me disaient « Écoutez, moi, j'ai pas envie, j'y crois pas ».
Oui, ça va être compliqué pour lui. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a 3 blocs clairs en France. Le bloc du président Macron, hein, de centre-droit, dont on vient de parler. Le bloc Rassemblement National de Marine Le Pen à l'extrême droite, même fissuré un peu pour l'instant avec Éric Zemmour. Et désormais donc un bloc de gauche depuis la semaine passée avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, avec les Verts, les communistes et désormais les socialistes sous le nom, on le disait tout à l'heure, de NUP ou NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Joanna, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, c'est possible ou alors c'est de l'ordre de l'utopie?
En tout cas, c'est pas gagné. Le tour de force en termes de communication, d'abord en appelant rapidement à se faire élire Premier ministre, à parler d'un troisième tour, il fonctionne. Il est dans une dynamique, Jean-Luc Mélenchon est dans une dynamique extrêmement positive.
22% à la présidentielle, il surfe là-dessus.
Tout à fait. Et puis il a réagi là où, par exemple, Marine Le Pen a pris des vacances, certainement méritées après plusieurs mois de campagne. Mais en tout cas, il a occupé rapidement le terrain en termes de communication et d'une façon très simple finalement cette idée de troisième tour et cette idée de dire élisez-moi un premier ministre, c'est assez simple à comprendre et donc c'est assez vite rentré. Et puis il a réussi un deuxième tour de force qui est cette fois politique, qui est le fruit de négociations. C'est donc cette espèce d'une union de la gauche sous cette nouvelle bannière. Et effectivement, il a réussi à se rapprocher du Parti Socialiste là où les discussions étaient complètement au point mort depuis de très nombreuses années. Donc, en faisant ça, il a parlé d'ailleurs ce week-end d'un accord historique. Et donc ça, ça a marqué. Par contre, effectivement, si on compare à 2017, le nombre de députés, le nombre de places à gagner est quand même très important. Et la répartition des circonscriptions, voilà, là, l'accord est passé, mais on entend les voix, notamment des fameux éléphants du Parti Socialiste s'élever. On entendait encore ce matin François Hollande sur France Inter expliquer que cet accord allait risquait de déséquilibrer durablement la gauche. Donc il faut voir comment ça va se passer. Après, comme le disait Astrid au tout début, c'est vrai que c'est la première fois où on se retrouve dans cette configuration où finalement depuis la mise en place du quinquennat et donc depuis le changement du calendrier électoral où les législatives sont extrêmement proches des présidentielles, c'est la première fois où on a un président qui est réélu. Et donc qui a aussi une sorte de mandat. Donc ça, c'est une incertitude. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la bataille sera longue et qu'une cohabitation, c'est pas forcément gagné.
Et justement, Jean-Luc Mélenchon qui harangue la foule pour imposer cette fameuse cohabitation dont tu parles. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, en tout cas, on se pose la question. Lui aussi, peut-être en se rasant tous les matins, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon.
Il va avoir encore les pleins pouvoirs pour aller se réunir avec son conseil de défense pour décider de la santé, de l'agriculture et de tout ce qui lui passera par la tête, ou bien vous donner un mandat politique à une nouvelle majorité. Comment on fait, Monsieur Mélenchon, pour vous élire Premier ministre, puisque, comme l'a dit quelqu'un, on n'élit pas le Premier ministre? Eh bien, on élit des députés qui constituent une majorité. Lesquels? Ceux de l'Union populaire. Ah oui, mais... Là, je vais quand même mettre les points sur les i. Hein. Toutes les familles sont dans l'Union populaire. Ceux qui présentent des candidats contre les candidats de l'Union populaire sont des candidats macronistes parce qu'ils ne servent que Macron.
Astrid de Villene, et Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, même question. C'est possible ou alors c'est de l'ordre de l'utopie?
Moi, j'ai toujours du mal à faire des prédictions en politique parce que je pense que par définition, tout est possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils partent pas dans les meilleures conditions. Enfin, ils partent dans des meilleures conditions qu'à la présidentielle, parce qu'en effet, il y a eu cet accord qui a été en effet réalisé de manière très rapide, hein, 13 jours et 13 nuits, c'est très peu. Mais c'est peut-être justement le problème, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un accord qui s'est fait surtout pour sauver les partis. Parce que vu l'état du Parti Socialiste et des Verts juste après la présidentielle, hein, alors qu'ils n'ont pas dépassé les 5%, pareil pour le Parti communiste, on sent que ces trois formations avaient besoin de signer un accord pour se sauver. De l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, lui, il met toutes ses forces dans la bataille. On sait que c'est sans doute la dernière bataille politique qu'il va livrer de ce niveau-là, à mon avis. Et il a enfin compris que l'Union de la gauche pouvait avoir un intérêt. Mais j'allais dire, c'est dommage qu'il n'ait pas fait ce genre de discussion il y a 5 ans. Parce qu'en fait, si vous reprenez le score de 2017, on n'est pas loin de la même configuration. Le PS est à 6%, bon là il est à 2, même pas. Jean-Luc Mélenchon est à 22, il était à 19 la dernière fois. Donc s'ils avaient réussi à accorder leur violon sur les circonscriptions et sur le programme, il y a 5 ans, sans doute que l'histoire aurait été différente. Alors que là, vous voyez que ça commence déjà à craquer de partout. Outre les éléphants dont parlait Johanna, on a aussi, par exemple, des candidatures spécifiques qui font polémique. Et du coup, la lumière médiatique se met là-dessus. On peut penser, par exemple, dans le 20e arrondissement de Paris, à Lamia El Haradj, oui, qui a été soutenue par Lionel Jospin.
Alors même ce week-end, sur un marché. Hein, oui.
Alors que dans l'accord, c'est pas elle qui a été... désigné, c'est son adversaire local Daniel Simonet, insoumise. Et on a en ce moment une polémique qui monte sur Tahabouavs, qui est un candidat dans le Rhône, et qui, lui, a été critiqué parce qu'il a eu une condamnation pour injure publique en première instance, et que maintenant, Fabien Roussel, alors qu'il est dans l'accord, le communiste Fabien Roussel n'en veut plus. Donc en fait, on voit bien que derrière cet accord de façade, les divisions, elles ne sont pas très loin. Donc voilà, je réponds pas vraiment à votre question. J'utilise des détours, mais ce que je veux dire, c'est j'utilise souvent la formule de Cécile Duflot, qui est une ancienne patronne des Verts et qui a, elle, réussi à faire un accord gagnant aux législatives de 2012 entre le PS et les Verts. Elle dit toujours, moi, j'ai mis 2 ans à faire cet accord. Donc là, ils sont dans une posture d'accord défensif à la dernière minute et c'est rarement gagnant. Après, attention, en France, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si Emmanuel Macron se plante, s'il y a une affaire, si son Premier ministre n'est pas à la hauteur, voilà, les circonstances politiques peuvent encore évidemment bouger au cours des prochaines semaines.
Mais si on regarde aujourd'hui, à l'Assemblée, il y a 577 députés. Pour avoir la majorité, c'est 289. Sauf que quand on regarde les 4 partis de gauche qui se sont alliés, Astrid, ils font 60 députés aujourd'hui. On est bien loin des 289. Ça va être compliqué, quasiment impossible, autant être clair, non ?
Oui, c'est hautement improbable, comme le disent de nombreux politologues. Je suis assez d'accord avec la formule. C'est hautement improbable. Moi, je pense, si vous voulez un chiffre, je vais vous le donner. Moi, je pense qu'ils peuvent faire 120.
C'est un peu ce qui ressort, effectivement. 120, c'est jouable.
Ce qui serait déjà pas mal, hein. Ce qui serait déjà pas mal. Mais en effet, ça ne fait pas du tout une majorité. Mais c'est une étape, c'est-à-dire que c'est une force quand même unie. D'ailleurs, en fait, cette union, elle a aussi du sens à l'Assemblée parce que si on regarde bien les derniers textes votés, très souvent, en fait, les 3 groupes Insoumis, communistes et socialistes étaient unis, en fait, dans leur motion de censure, qui n'aboutissait pas, hein, mais qu'ils défendaient, dans leur vote. Ils se sont beaucoup mobilisés, par exemple, contre la privatisation des aéroports de Paris, et ils étaient toujours ensemble. Donc, en fait, il y avait aussi un décalage entre le Parlement, où ça bossait vraiment, la gauche ensemble, et les invectives nationales qu'ils s'envoyaient par médias interposés.
Mais il y a quand même des dossiers sur lesquels ils ne sont pas d'accord, sur le nucléaire. On sait que voilà, les communistes, entre autres, voilà, se sont dit ben « nous, on va manger notre pain noir sur ce dossier ».
Oui, c'est un vrai reniement. Et il y a aussi l'Europe, qui est très problématique pour de nombreux socialistes et certains écologistes. Parce que Jean-Luc Mélenchon, là, il a mis un petit peu d'eau dans son vin. Ils ont essayé de s'accorder sur un terme, et encore avec le PS, ça n'a pas marché, sur la désobéissance au traité quand